I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entre bien, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour ce premier épisode du podcast, je suis ravie de discuter avec Clémence. Clémence, je la connais depuis quelques années, elle est devenue la femme d'un copain et une très bonne amie. Après le mariage, la question d'un bébé s'est posée tout naturellement pour ce couple, et c'est là que j'ai appris que Clémence souffrait d'endométriose à un stade assez avancé. Je connaissais aussi son caractère et je savais qu'elle ne laisserait pas tomber son désir d'enfant. Un an et demi plus tard, après des hauts et des bas, Clémence est devenue la maman d'Ulysse et Achille, des jumeaux bien craquants. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours entre FIV, espoir et déception, puis sa maternité face à des jumeaux qui ne lui laissent pas une minute de repos. Bonne écoute! Bonjour Clémence et bienvenue dans Le Tourbillon. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode.
Avec plaisir, Shane.
Pour démarrer, je voulais aborder avec toi le sujet de l'endométriose. C'est une maladie que tu as connue avant de devenir maman et que tu connais d'ailleurs certainement en fait...
Toujours, ouais, toujours, voilà. C'est toujours le cas.
Donc on en entend parler depuis peu, genre 2-3 ans, et surtout parce que des célébrités ont mis le problème sous les projecteurs.
C'est exact.
Comment ça se manifestait chez toi et comment tu as découvert que tu avais cette maladie?
Alors, moi, avant d'être diagnostiquée, je pense que ça a pris à peu près entre 5 et 7 ans. Moi, j'ai été sous pilule très longtemps, donc je pense que ça mettait la maladie en sommeil, ce qui est le cas de pas mal de personnes. Et du jour où j'ai arrêté la pilule, j'ai commencé à avoir des douleurs de règles assez fortes. Et ensuite, c'était pas seulement des douleurs de règles, j'en avais en dehors de mes cycles. J'avais des douleurs, moi, pas mal au niveau du diaphragme, au niveau du foie, pancréas, les intestins. Et je me suis pas mal plaint, surtout 2 ans avant qu'on découvre, parce que les douleurs augmentaient. Je pouvais passer des moments allongés sur le carrelage d'une salle de bain pour chercher un peu de soulagement. Voilà, on mange des cachets de paracétamol ou autre pour essayer de faire passer la douleur. Et puis, moi, j'ai pensé à la maladie, puisque je connaissais quelqu'un qui était atteint de cette maladie. Et ma gynéco de l'époque m'a dit « Mais pas du tout, vous remplissez pas les critères. » On se rend compte aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de critères. Donc, finalement, en cherchant un peu plus, il a fallu malheureusement que j'arrive à avoir un énorme kyste sur un ovaire pour qu'on découvre que c'était bien de l'endométriose et que malheureusement, j'en avais partout, sur les intestins, au niveau du diaphragme, du foie, du pancréas, évidemment, toutes les parties génitales, l'utérus, ovaire. Il était déjà un peu tard. Malheureusement, c'est une maladie qui se diagnostique tardivement. Et je pense que c'est bien aujourd'hui qu'on en parle, puisque c'est ce qui va permettre à beaucoup de médecins de penser plus facilement à cette maladie, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'il n'y a pas de symptômes types. On se rend compte que chez chaque personne, c'est un peu différent et ça ne se manifeste pas forcément de la même façon. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute de soi et il faut que les médecins aussi sachent être à l'écoute des patients.
Et alors, quand on te pose enfin un diagnostic et qu'on te confirme l'endométriose, est-ce qu'on te prévient aussi immédiatement que ça va être difficile pour toi d'avoir des enfants?
Quand on le découvre, moi, on me fait une écho, en fait, parce que j'ai très, très mal dans le bas-ventre. Et en fait, à l'écho, on voit un kyste, c'est assez impressionnant. Je vois un énorme kyste, moi, je le vois, je ne suis pas médecin, mais apparaître. Alors moi, au début, je pense cancer, parce que c'est vrai que je ne connais pas plus la maladie que ça. Et puis, je ne savais même pas que la maladie pouvait former des kystes d'endométriose. Donc ça, c'est assez ennuyeux sur le moment. Et moi, je pleure limite en me disant, ça y est, j'ai un cancer, je ne vais pas pouvoir avoir d'enfant. Très vite, on vérifie que c'est bien un kyste d'endométriose, donc évidemment, pas de cancer. heureusement, mais une maladie qui, on me le dit assez vite, qui est là jusqu'à la ménopause finalement, donc c'est une maladie qu'on ne peut pas enrayer, elle reste. Après, elle peut être plus ou moins en sommeil, plus ou moins forte. Et une des conséquences, on le dit, ma gynéco, je pense, l'a dit à peu près tout de suite, elle m'a dit, bon bah voilà, ça a des conséquences sur l'infertilité. Parce que nous, on essayait déjà d'avoir un enfant depuis presque un an. Et bah évidemment, ça marchait pas. Et puis en découvrant ça, on se rend compte que bah, ça va pas faciliter les choses. Donc c'est vrai que c'est assez... Ouais, finalement, on se dit... j'étais pas pressée d'avoir des enfants, mais quand, tout d'un coup, quand on vous dit, finalement, ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Ah bon ? Mais j'en voulais.
À partir de ce moment-là, vous essayez d'avoir des enfants naturellement, mais bon, bah, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu culpabilises, sachant que le problème vient de ton corps ?
Bah, pas du tout, mais je culpabilise pas. Je me dis pas... puis j'ai un mari qui est hyper compréhensif, donc on se dit pas c'est la faute, à personne. En fait, c'est la faute à pas de chance. Moi, au début, je suis partagée par deux sentiments. Je suis un peu dans la révolte qu'on m'ait pas écoutée avant. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de pas être entendue pendant longtemps. Donc, c'est très frustrant de se dire on a mal quelque part, mais les gens finissent par vous dire c'est dans la tête. Donc, après, arrive le moment, on est énervé, on se dit ils sont passés à côté de quelque chose. Il y a quand même le soulagement de se dire j'ai quelque chose. Parce que vivre avec une douleur sans pouvoir l'associer à quelque chose, c'est fini par se dire mais est-ce que je suis folle ou pas, quoi. Donc, je me dis, voilà, au moins on sait d'où ça vient, on sait que ça sera pas facile, on sait qu'il y a un parcours qui se présente. Évidemment, je me renseigne un peu et je vois que les parcours sont très différents. Il y a des personnes qui souffrent d'endométriose mais qui tombent enceintes assez facilement. Tout dépend évidemment de l'évolution du stade, des organes touchés. Donc voilà, il y a des personnes qui rentrent dans un parcours du combattant très compliqué et pour qui ça ne fonctionne pas. Donc moi, je suis un peu genre perdue. Je me dis, on verra
ce qui se situe.
Ouais, on ne sait pas, quoi. On rentre dans quelque chose dont on ignore finalement tout. Et la finalité, c'est difficile de se dire, il y a tant de cas en fonction de tel stade. Et puis les médecins, ils ne t'encouragent pas à te dire ça a marché, quoi. Parce qu'eux, ils n'en savent pas beaucoup plus. Donc ils restent un peu sur la mesure, et je pense que c'est bien. Après, c'est à soi de se projeter et de se dire, voilà, comment on va y arriver. Et c'est vrai que la première étape, c'est, dans mon cas, avec le stade de la maladie et l'évolution, c'était de toute façon une opération avant une grossesse. Moi, j'étais obligée d'être opérée.
Ah oui,
sinon, il n'y avait pas de possibilité. Clairement, la possibilité de grossesse était inexistante. Et on dit qu'après l'opération, qui se fait sous célioscopie, donc ça, les dégâts sont mineurs, en tout cas, on ne vous ouvre pas le ventre entièrement. Et ils te proposent, ils te disent, vous avez 6 mois à 1 an pour tomber enceinte naturellement. Parce que souvent, cette opération, quand même, favorise une grossesse naturelle derrière. Moi, on m'a donné 6 mois. Et si dans les 6 mois, ça ne fonctionnait pas, on savait qu'on a un process après de procréation médicalement assistée qui nous attend. Parce que la maladie revient, en fait, une fois que l'opération, le médecin vous opère, mais les règles reviennent. Donc, qui dit règles, dit la maladie reprend du terrain. Et on ne veut pas laisser la maladie trop reprendre du terrain, sinon on revient à la case départ. Donc il fallait réussir à jauger à peu près le bon stade. Voilà.
Et donc, au bout de 6 mois, première FIV, alors, c'est ça
Oui, à peu près. En fait, je suis tombée enceinte naturellement après l'opération. Mm-hmm. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche assez rapidement, au bout de deux mois et demi.
Et alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu fais une fausse couche ? Est-ce que tu te dis « je laisse tomber, ça ne fonctionnera jamais » ou au contraire, est-ce que tu te dis « il y avait peu de chance finalement ?»
Ouais, j'irais plutôt vers ce point-là. Ouais, je me dis « c'est un miracle en fait » parce que moi, j'ai confiance. En fait, je pense que l'équipe médicale qui nous entoure aussi, c'est hyper important d'être en confiance. Mmh. Moi, j'ai super confiance en mon médecin. À la sortie de l'opération, je vois qu'il est assez positif et tout. Il a envie d'y croire, donc j'ai envie d'y croire aussi. Effectivement, très vite, un mois après, je l'appelle, je lui dis je suis enceinte, il dit incroyable, donc on vérifie, il dit les taux étaient pas très bons, donc il dit va falloir s'accrocher et tout ça pour que ça s'accroche aussi avec vous. Mm-hmm. Bon, malheureusement, je fais une fausse couche, mais derrière, on se dit ok, ça peut, mon corps est pas fermé à l'idée, quoi, donc c'est possible, donc on sait pas. Et on se dit, il nous laisse du coup, après cette fausse couche, il nous dit, allez, je vous donne encore 4 mois, du coup, il nous donne un peu de rab, oui. Parce qu'il dit, là, il y a eu un début de grossesse, donc ça peut peut-être revenir. Donc on y croit, et il nous laisse du coup 4 mois de plus, donc j'ai attendu, je pense, en total, après l'opération, 7 mois ou 8 mois avant de commencer, du coup, le protocole de procréation médicalement assistée.
Oui. Et donc, comment ça se passe la première fois, une FIV?
je connaissais, heureusement, je connaissais des copines qui avaient dû passer par ce process, oui. Donc ça facilite finalement la préparation, je pense, psychologique, parce que C'est bizarre, enfin c'est pas du tout la façon dont on conçoit d'avoir des enfants, donc il y a déjà ça à se dire, bon on va avoir des enfants mais finalement c'est pas, ça va pas être naturellement. En plus on a eu cette petite fenêtre où on s'est dit on va y arriver tout seul et en fait on nous dit bon en fait ça marche pas, donc on va repartir. Et, mais le médecin nous dit en commençant le protocole, le fait que vous ayez été enceinte même de quelques mois une fois, c'est un bon signe pour qu'éventuellement derrière un bébé puisse s'accrocher, parce que finalement votre corps a déjà attraper un peu cette notion de grossesse. Donc il a la mémoire plus ou moins de cette grossesse, donc peut-être que ça marchera mieux, du coup ça peut faciliter la FIV. Et la FIV, bah, c'est un peu je pense que c'est difficile moralement au départ. Physiquement, moi j'ai souffert sur les piqûres un peu, mais je dirais pas tant que ça. Il y a certaines piqûres qui sont très désagréables, mais finalement je trouvais ça pas si dur. Après je pense que sur les humeurs, sur le mood, les hormones et tout au quotidien, ça nous change quand même pas mal. Et puis il y a un stress parce qu'on dit il faut pas y penser, mais en fait on passe tous les jours à se piquer dans le ventre, donc bah, c'est impossible de ne pas y penser. Évidemment on pense qu'à ça et on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais réussir à avoir suffisamment d'ovocytes, et puis on vous fait des échos pour vérifier, puis on dit ah il y en a pas beaucoup, ah est-ce qu'on va prélever et tout. Donc finalement on est dans l'attente permanente, puis on attend chaque rendez-vous et on se dit est-ce qu'on va pas ressortir déçu, donc on essaye de se préparer à cette possible déception, que va dire le médecin. Et c'est vrai que jusqu'au bout, nous, on dit que pour une femme à peu près normale, elle a, sur une stimulation, quand tout va bien, elle a une dizaine, on va dire, d'ovocytes, à peu près. Nous, on était à 4, voire 5 le jour de la ponction, donc le médecin était évidemment pas super enjoué. Il dit, bon, bah, on va quand même essayer, parce qu'à un moment, il a hésité à ponctionner. Et puis, il dit, bon, bah, on y va comme ça, et... Et c'est vrai que nous, on se dit, finalement, voilà, c'est 5 ovocytes, on peut peut-être en faire 5 bébés potentiels. Et ça, c'est un moment assez étrange, parce que vous avez quand même les maris qui sont obligés de faire leur spermogramme. C'est pas le moment, je pense, plus agréable pour eux non plus, de se dire, voilà, comment on va concevoir un bébé.
Oui, ça enlève tout le côté glamour.
Voilà, hein, c'est pas le moment charnel, l'échange, ouais, la passion. Et puis après, quand on y repense, on se dit, ah, on l'a fait là, c'était incroyable, ouais, il a été conçu comme ça. Voilà. Non, il a été conçu dans une éprouvette, dans un laboratoire sur lequel nous n'avions aucune prise. Et après, gentiment, on nous a proposé de nous le réimplanter. Mais voilà, ils ont quand même été conçus en dehors de nous, quoi. Et ça, on en parle assez souvent, mais ça reste assez bizarre de se dire que finalement, c'est des enfants qui ont connu d'autres gens, finalement, avant de connaître leurs propres parents. Ils étaient dans les mains, ils ont été manipulés par des étrangers. Donc voilà, ça c'est assez... Bon, ce sera anecdotique avec le temps, il faut le prendre comme ça. Et puis, on a la chance de se dire que bah, c'est notre première FIV et tout est possible. Enfin, parce que la première fois, je pense qu'on n'est pas échaudé par justement les fois d'avant, les moments difficiles et tout. Là, on a envie d'y croire, quoi. On est vraiment dans le... J'avoue, pour nous, on était dans un mood assez positif. On sortait de cette fausse couche qui n'était pas une bonne chose, mais on essayait d'en tirer quelque chose de positif et on allait vers l'inconnu, mais voilà, avec des cartes qu'on avait envie, en tout cas on avait envie de jouer une belle main, quoi. On s'est dit allez, on peut la faire celle-là.
Et donc il y a eu combien de temps qui s'est passé avec cette première FIV? Il y en a eu d'autres derrière ou c'était
la... Non, c'était la bonne. Et c'est ça qui est assez incroyable. Alors c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, mais nous ouais, on n'a pas eu besoin de retourner à cette case, et c'est pour ça que je pense que psychologiquement, même aujourd'hui, c'est peut-être moins difficile à porter, puisque bah là, quand la première marche, je pense, c'est juste magique. Et puis nous, on s'était dit, on a très peu de chance avec le peu d'ovocytes qu'on avait à la fécondation. Quand ils font rencontrer les ovocytes et les spermatozoïdes, ils nous appellent pour nous dire qu'il n'y en a que 2 qui ont réussi à se développer. On se dit, ah, 2, bon, ben, les chances pour que ça s'implante, c'est pas gagné. Et finalement, ça fonctionne. Donc, ouais, c'est, pour nous, c'est que du positif. Enfin... Et on oublie que ça a été dur. On oublie très vite que finalement il y a eu les piqûres, on a pleuré, on était triste.
Ça a duré combien de temps tout ce temps dur? C'était 1 an et demi en tout?
Ouais, je pense découverte de la maladie, les passages un peu durs, ouais, c'est une bonne année et demie où on fait un peu les montagnes russes. Il y a des moments où on est là, on dit allez, ça va aller, puis en fait ça marche pas, puis on a envie d'y croire, puis on attend le cycle d'après, puis est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et on devient un peu obsessionnel, et puis on sait que ça fonctionne, enfin, on sait que ça fonctionne pas comme chez tout le monde. Donc on sait que de toute façon, Et je pense que psychologiquement, ça aide pas non plus, sûrement à l'implantation d'une grossesse, peut-être parfois aussi, je pense que peut-être ça joue, parce qu'on est, on est effectivement que là-dessus et on ne pense plus qu'à ça. Donc c'est un peu, c'est pas les meilleurs moments.
Et donc, au bout d'1 an et demi, donc ça y est, c'est officiel, tu es enceinte.
Tintin.
Comment tu as vécu tes premiers mois de maternité, enfin de grossesse,
ouais. On peut dire, ouais, maternité, je pense, parce que c'est le début, t'as raison, le début de la maternité. Le début de la grossesse, bah, y a l'angoisse que ça s'accroche pas. Déjà, moi, je pense que j'ai attendu justement déjà la première phase, donc 2 mois et demi, qui était la phase où j'avais fait ma fausse couche la première fois. Déjà, je voulais passer ce stade pour me dire, bon, ça prend un meilleur tour. C'est vrai que les analyses étaient bonnes. Quand vous faites une fille, vous êtes suivie, en tout cas au tout début, de près, c'est-à-dire qu'on fait une prise de sang assez proche, une deuxième, on refait une écho assez vite pour voir si tout va bien. Et puis nous, il s'avère qu'on avait voulu mettre 2 embryons, les 2 seuls qui étaient viables, et du coup, on devait checker comme une possible grossesse gémellaire, c'est encore plus suivi. Donc, bah, c'est vrai que les premiers mois, un peu stressés, et en plus, on m'annonce que les deux... assez vite, parce que le premier mois, à la fin du premier mois de grossesse, on me dit, bah, les deux, il y avait bien les deux pour l'instant, hein, les cœurs battent, tout ça, donc là, c'est, je suis partagée entre la joie et la panique, au secours des jumeaux, parce que ça a l'air super comme ça, mais, parce qu'on voulait avoir des enfants, donc on se dit, bah, 2, c'est génial, parce qu'on aurait pu ne pas en avoir. Mais on se dit, comment on va gérer 2 enfants? Parce que voilà, on n'en a pas, et c'est l'inconnu, l'inconnu.
Ouais, puis outre la fièvre, il y avait déjà un risque
familial. Oui. Ouais. ça existait, ça nous pendait au nez en tout cas, tout était possible. Donc oui, mon mari connaissait un peu plus du coup les conséquences de la gémellité dans une famille, mais c'est vrai que moi j'ignorais un peu et ouais, ça, au début ça m'a un peu stressée. Donc j'étais partagée entre je veux que la grossesse se passe au mieux et mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que la grossesse va bien se passer, parce qu'on dit aussi que les grossesses gémellaires, bah, il y a aussi plus de risques pour les enfants et pour la maman. Donc ouais, on rentre un peu dans une phase où il faut se détendre, mais en même temps on est quand même un peu tendu et j'avoue les débuts, bah, moi j'ai été assez malade dans le sens où j'avais mal au cœur tout le temps. Donc moi je me disais qu'au moins ils étaient toujours là, ça m'aidait à me dire, bah, si je vais pas bien c'est que pour l'instant je suis toujours enceinte, les hormones et tout ça fonctionne. Mais ouais, j'étais pas bien, mais hormis ces côtés nauséeux et tout, au début ça allait super bien. Ouais, franchement les débuts de grossesse, puis on est quand même content dans l'absolu, ça marche quoi.
Donc, oui, bah oui.
Quand on passe le stade des 3 mois, on se dit, oh, c'est incroyable quoi, on va vraiment mettre au monde 2 enfants, ah, là, c'est fou.
Voilà. Ouais, donc au bout de 3 mois, t'es vraiment rassurée complètement.
Je suis rassurée, on voit qu'ils sont bien accrochés, il n'y a pas de difficultés particulières, les petits cœurs battent très bien. Voilà, évidemment, le médecin est toujours précautionneux en disant on fait toujours attention, c'est des jumeaux, il peut se passer n'importe quoi. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, il dit pour l'instant, tout roule, donc continuez sur cette voie. Donc on a essayé de se maintenir pendant les mois qui ont suivi. Et voilà, ça s'est pas mal passé. Bon, après, il y a tout le corps qui prend quand même, je pense, très cher avec une grossesse gémellaire. En tout cas, pour ma part, même si c'est pas forcément en poids, mais physiquement, ouais, ça tire partout. Et à la fin, on se traîne quand même, on peut me dire, comme une baleine échouée sur un banc. J'avais l'impression de me traîner de banc en banc.
Donc, les jumeaux arrivent en août. Comment tu vis tes débuts de maman l'été dernier?
C'est pas un été comme les autres. Non, ce qui était super, c'est que mon mari a pu avoir son congé paternité et enchaîner avec ses vacances. Que ça arrivait en août, c'est plutôt très bien tombé. Donc en fait, au début, on se sent pas trop démuni. Je pense que c'est l'été, il fait beau, on est en vacances, on a son mari avec soi, on a de l'aide un peu de ses parents, parce qu'on a été pas mal avec mes parents au début. Donc en fait, ça va. Et puis la fatigue, on la sent pas, je pense, sur le premier mois. On va dire les premiers 2 mois, on dort pas, on se réveille plein de fois. Mais pareil, on se lève le matin, il est 5h30, il fait jour. Enfin, en fait, c'est hyper dopant, je pense, d'avoir le soleil et l'été. Donc au début, on se dit, ouais, ça va, c'est pas si dur, finalement, les nuits. Et puis en fait, on rentre à Paris, on reprend la vraie vie, on n'est plus trop aidés, on dort pas la nuit, on est toute seule, son mari retourne travailler, on se lève 3, 4 fois, 5 fois, on n'en peut plus. La journée, nous, en plus, on a un des deux qui pleurait énormément, donc il était inconsolable, il pouvait passer des journées entières à pleurer, je ne savais pas quoi faire. Donc il y a vraiment des moments où je me disais, mais moi je vais sauter par la fenêtre, vraiment, je me le suis dit, où je vais m'en aller, je vais prendre mes affaires, je vais partir de cette maison, parce que moralement, c'est hyper dur. Franchement, j'aurais jamais pensé, je m'étais dit, non, mais ça va, moi j'ai le tempérament, ça va le faire, je me sentais hyper courageuse, je savais que je rebossais pas, j'avais pas d'issue de boulot d'air, donc je me dis, allez, je m'investis à fond. Mais en fait, il y a un moment, on est rattrapé par cette fatigue qui nous submerge, je pense. La descente d'hormones, je pense, y est aussi pour quelque chose. Et on se retrouve là toute la journée, toutes les nuits, avec 2 enfants. On a beau les trouver mignons, Ma maman, en fait, ça compense pas. Et là, je me disais, mais toutes mes copines qui me disent, ah, mais non, mais tu verras un sourire et tout est effacé. Mais là, je me disais, mais le problème, c'est que j'en ai deux. Il y en a un des deux qui sourit, mais l'autre, il hurle en permanence. Moi, le sourire n'efface pas le fait que là, je n'ai pas dormi depuis déjà 3 mois. Je suis au bout de ma vie, quoi. Et voilà, donc c'est, là, il y a eu un moment très, très dur. Il y a une phase, il y a une sorte de passage à vide. Ouais, où moi, on se remet en question, mais surtout, oui, est-ce que je suis... Ben, c'est ça. Mmh. Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que tout le monde galère? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas m'y prendre? Pourquoi il y en a un des deux qui hurle et pas l'autre? Pourtant, j'ai l'impression de faire la même chose. Bon, on se rend compte qu'il a quand même un reflux important, qu'il a eu des soucis, finalement, à la naissance, avec le cordon autour du cou, il a les cervicales un peu coincées et tout. Donc, de fil en aiguille, on commence à essayer de le soulager. Et au bout de 4 mois, ça, on arrive enfin à apaiser sa souffrance. Donc, évidemment, lui, il devient très calme. Donc là, on retombe déjà un petit peu. On dit, pff, on a l'impression. Et moi, j'ai des copines qui sont mamans de jumeaux qui m'ont dit, franchement, la première année, c'est très dur. Les 6 premiers mois, c'est un enfer. La première année, c'est difficile. Et au bout de 18 mois, on commence à se dire, ça va un peu mieux. Donc, je m'accrochais à ça. Je me dis, allez, 4 mois déjà. Ah si, il paraît que ça va déjà beaucoup mieux. Et en fait, on attend qu'une chose, c'est qu'ils dorment, qu'ils fassent leur nuit. Nous, ça a pris un peu de temps donc, pour celui qui était le plus pleureur. Donc, quand il a commencé à dormir, déjà, vous vous levez plus que pour un. Bon, le deuxième ne dort toujours pas actuellement. Il va avoir 8 mois. Mais nous ne désespérons pas.
Il reste 10 mois.
Donc, voilà, c'est ça. Donc, je me dis, voilà, là, on en est quand même à 8 mois où je n'ai jamais fait de nuit complète, quasiment. Mm-hmm. Sauf de temps en temps, quand mon mari prend le relais, de temps en temps, le week-end, il me laisse une nuit. Mais bon, je vous avoue, quand, dans un appartement parisien, vous avez beau essayer de mettre la tête sous les doubles oreillers quand vous avez un des deux qui pleure, vous finissez quand même par l'entendre. Et puis, je pense que c'est maternel aussi de sentir que son enfant pleure la nuit. Donc, voilà, après 8 mois, on est fatigué, mais... On sait qu'on est évidemment loin des moments, des débuts. Voilà, quand je regarde en arrière, je me dis, mais c'est terminé ces journées horribles où je ne savais pas si j'allais réussir à tenir jusqu'à la fin de la journée, si je n'allais pas appeler mon mari en larmes en lui disant, il faut que tu rentres, je n'y arrive plus avec les enfants. Et ça, c'est dur parce qu'on sent, on sent vraiment de la merde, quoi. On se sent vraiment nul, on se dit, je suis bonne à rien. Donc, je ne travaille pas, je dois m'occuper de mes enfants, mais même ça... J'ai l'impression que je suis pas capable de le faire tous les jours. Et c'est super dur. Oui. Et assez dévalorisant. Enfin...
Oui, parce que toi, en plus, après le congé maternité lambda, t'as pas repris du tout le boulot.
Exactement. Donc, pas de reprise de boulot.
Donc, c'était un choix.
C'est un choix. Ouais, c'est un choix personnel. Parce que plus... j'ai l'impression d'avoir terminé un cycle dans mon boulot. J'étais avocate. Et l'impression d'avoir vraiment fini un cycle... L'envie un peu d'autre chose, donc un peu en interrogation, donc cette volonté de me dire je repars pas bosser. Et je réfléchis à comment je vais organiser la suite et tout. Et ça, je pensais avoir le temps, mais en fait, j'avais pas réalisé qu'avec des jumeaux au quotidien 24 heures sur 24, en fait, c'est difficile de se projeter quand on dort pas. J'ai des copines qui me disaient, mais fais la sieste quand ils font la sieste. Et je leur disais, mais viens vivre chez moi. Parce qu'en fait, quand il y en a un qui dort, bah, l'autre ne dort pas forcément. Et ça, c'est toute la journée. Donc, les siestes, j'en rêve. Alors, évidemment, quand un maman, pendant un quart d'heure, j'en ai aucun des deux. Oui, je me mets sur mon canapé, mais va t'endormir quand derrière, tu sais que, un, tu peux être réveillée à tout moment. Donc, c'est dur de lâcher la pression. Et puis, t'as ton appart, c'est quand même le bon, que c'est avec 2 enfants très vite. Donc, puis moi, je suis hyper maniaque. Donc, du coup, c'est hyper dur de lâcher prise. Donc, non, c'est... C'est sport, c'est sport et voilà, il y a cette projection, je ne sais pas où je vais, quoi. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai envie d'essayer d'être une bonne maman, je me dis, voilà, au moins ça, je vais essayer de le faire à fond, quoi. Et les débuts, je me dis, mais j'y arrive pas.
Mince.
Je me suis peut-être trompée. Vite. Et finalement, là, on se dit, en fait, si j'avais eu un boulot et que je devais reprendre, ça aurait peut-être été plus facile pour me reprojeter et me dire, allez, il y a un boulot derrière. Donc là, après, tu vas sortir de ça, de cette difficulté. Mais c'était pas le cas.
Et alors, en plus, dans tout ça, toi, tu savais pas que tu pouvais avoir droit à des aides ?
Non, alors, j'avais pas tout exploité. Alors, effectivement, il y a un truc qui est super pour les mamans de jumeaux, c'est de se faire aider. Il y a des associations qui proposent des aides à domicile, payants ou gratuits en fonction de si la CAF finance ou pas. Ça dépend toujours de où on habite. Donc ça, c'est une possibilité. Je pense que c'est bien. Après, il y a des aides moyennant beaucoup de finances et les aides de nuit. Donc, on a eu la chance de se faire offrir quelques nuits à un maman parce que sinon, c'était passé les 4 mois, mais parce que sinon, je pense que je ne sais pas si j'aurais tenu. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais bah, déjà quelques nuits où on se dit qu'il y a une auxiliaire de puériculture ou une sage-femme ou qui prend soin des enfants et qui ne va pas les laisser à la dérive. Même si on ne dort pas hyper sereinement, on sait qu'on ne se lève pas déjà. Mmh. Et ça, c'est assez reposant. Après, c'est avec le temps, on a découvert qu'effectivement, avec la CAF, on peut aussi avoir une aide pour faire intervenir quelqu'un à domicile en dehors des associations. Mais du coup, comme ils prennent, je crois que c'est pareil quand vous avez 2 enfants déjà. Voilà, il y a une aide qui vous est donnée. Donc, quand vous employez quelqu'un pour garder vos enfants, une nounou, bah, il y a une petite aide qui vous est donnée. Et puis après, il y a aussi le crédit d'impôt. Donc, voilà, on s'est dit, bah tiens, nous, on va peut-être faire ça, parce que en fait, il est temps aussi que la journée, au-delà des nuits où là, on se dit, il n'y en a plus qu'un qui se réveille, donc déjà, c'est mieux, on se lève 1 fois ou 2, on se lève plus 4 fois dans la nuit, toutes les heures ou toutes les 2 heures. On se dit, voilà, la journée, c'est bien aussi de faire des choses pour soi. Et, parce qu'en fait, on sait plus ce que c'est de faire des choses pour soi et d'avoir du temps. Et tout ce qu'on fait, en fait, moi, je l'ai fait depuis que les enfants sont nés, avec les enfants. Et c'est très rare les moments où je me suis retrouvée toute seule, sauf le week-end de temps en temps. Voilà, où je disais à mon mari, bah, va les promener en poussette, que je prenne un bain et que j'entende pas de bruit dans la maison. Silence.
Et d'ailleurs, avec ton mari, bon, on dit souvent que l'arrivée d'enfants, ça chamboule pas mal les couples, donc pour les nouveaux parents. Ouais. Donc quand il y a des jumeaux, j'imagine que c'est 2 fois plus corsé. Ouais.
Non, c'est sympa les jumeaux. Non, franchement, nous on s'entend hyper bien hein, avec mon mari. Enfin, je pense qu'on n'a jamais eu vraiment de dispute avant d'avoir les jumeaux.
Oui, c'est ça.
Il n'y avait pas de tension. Et je pense quand même on a de la chance parce qu'on communique vachement et ça nous aide encore aujourd'hui parce qu'il y a quand même toujours des moments difficiles. En fait, moi j'ai découvert qu'effectivement l'arrivée d'un enfant c'est. Bon, on n'est plus 2, donc c'est vrai que le fait de devoir faire les choses à 3, c'est différent. Puis le fait de devoir faire les choses à 4, en fait, on a découvert qu'on avait tout le temps un enfant chacun dans les bras, dans les mains. Enfin, en gros, on est tout le temps occupé. Donc les moments où tu te retrouves à 2, vu que tes enfants n'ont pas forcément le même rythme de vie tous les deux, mais il y en a plus, très peu, ça pèse lourd. On n'a pas forcément la famille à côté qui peut aider et dire ah ben, on vous les prend, c'est formidable, voilà, prenez un peu de temps pour vous, allez vous faire masser, allez dîner en amoureux, parce que ça aussi, à chaque fois, ça coûte des sous, c'est prendre une babysitter, enfin voilà, ça, les jumeaux, ça commence à vite coûter un peu d'argent. Donc, ouais, le couple, il prend, très honnêtement, il prend sa part assez violemment. Après, voilà, on essaye de se répéter au quotidien que ça va pas être vrai et de se projeter sur autre chose. Mais oui, il y a des moments difficiles. Il y a vraiment des moments de passage. Il y a des petits passages à vide, ouais. Et on pensait pas en arriver là. Et après, d'ailleurs, quand on en parle, on se dit, mais c'est bizarre que parfois on arrive à monter un peu comme ça dans les tours ou même à se parler sur un ton qui est pas toujours très agréable alors que c'est pas du tout notre mode de fonctionnement. Et puis on se rend compte qu'on est comme tout le monde, que la fatigue est, voilà, ouais, a pris le dessus et qu'il y a des moments, en fait, il vaut mieux ne pas se parler ou se dire « Attends, pas là, stop, voilà, tout à l'heure, on en reparle. » Donc voilà, donc ça passe, ça passera aussi, ça va mieux déjà, mais les débuts, c'est vraiment la transformation, quoi. J'aurais pas pensé, le cataclysme.
Et aujourd'hui, maintenant qu'ils dorment un petit peu mieux, que tu peux un petit peu souffler, est-ce que tu as revu ton positionnement sur « je suis une mauvaise mère » et tu commences à comprendre qu'il n'y avait pas de soucis
je pense, ouais. Enfin, je ne sais pas que je culpabilisais beaucoup, mais si, je m'en voulais un petit peu, c'est sûr. Et en fait, déjà, une fois qu'on a réglé le problème d'Ulysse, qui n'était pas bien... Déjà, j'ai vu que c'était déjà pas lié à moi, parce qu'on a réussi à le soigner, c'était médical. Donc, et il a fait ses nuits assez vite, d'ailleurs, derrière. Donc, c'est un enfant, en fait, qui demandait que ça, à trouver l'apaisement. Donc, déjà, on se dit, bon, bah, on a fait, nous, ce qui était en notre pouvoir, c'est-à-dire essayer de voir avec les médecins qui nous entouraient comment l'aider. Mmh. Et déjà, on y arrive. Donc, déjà, je me dis, je sentais qu'il avait un truc qui allait pas. J'ai été jusqu'au bout. Ça me rappelait un peu l'endométriose quand on m'écoutait pas, mais on voit que cet enfant va pas bien. Je suis convaincue qu'il y a un truc qui va pas. On va aller jusqu'au bout de la démarche pour essayer de le soulager. Si vraiment on trouve rien, mais il faut l'aider. Et c'est vrai qu'une fois que Ulysse s'apaise, moi je m'apaise un peu. Bon, Achille, il a toujours été. Il est énergique, mais il pleure pas et tout. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est vrai qu'au quotidien, ils grandissent, ils changent, ils sourient, ils rigolent. Et tout ça, ça arrive quand même, c'est vrai, au fur et à mesure. Et on se dit, ah ouais, ça va, ça va. Je pense que ça va, je gère pas si mal. Et même limite, je dirais, après, on se prend un peu au jeu de s'occuper d'eux tous les jours parce que on se rend compte que bah, ils nous le rendent bien et qu'ils aiment bien et que finalement, est-ce que quand on fait des activités avec eux, je parle plutôt d'éveil, mais je me dis, est-ce que quelqu'un fera comme moi si quelqu'un les garde? Parce que bah, c'est vrai qu'on sent, on sent qu'on est la maman, on sent qu'on sait les faire rigoler quand il faut, on sent qu'on est capable de faire passer un pleur assez vite, et c'est là qu'on se dit, il va falloir déléguer et il va falloir faire confiance à quelqu'un d'autre que soi, parce que finalement, on se rend compte qu'on s'est pas si mal débrouillé, même si les premiers mois, on avait l'impression d'être vraiment la catastrophe ambulante. Donc ouais, ça s'est passé, je pense, un peu. Aujourd'hui, après, il y a des ratés, hein. Je me rends compte que je suis trop speed, qu'il faut que je lève un peu le pied, que je parle plus lentement aussi avec mes enfants, plus calmement, que je me pose pour qu'eux se posent aussi, je pense. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais ouais, c'est la culpabilité est passée. Le côté, genre, vraiment, je suis en train de rater les premiers mois de mes enfants, les pauvres. Et c'était mon angoisse avec les jumeaux, parce que je me suis dit, ça va être l'usine à bébés. Et dans ma tête, j'avais cette image de quand je vais avoir un bébé. En plus, j'ai eu le temps de penser à l'idée vu qu'on n'y arrivait pas et tout. Puis du coup, on projette encore plus. Je me disais, je vais prendre du temps, on va faire plein de choses ensemble, je vais le masser, je vais le choyer. Mais quand t'as deux bébés, mais c'est l'usine. Donc, t'en sors un du bain, tu l'essuies, clac, clac, t'essayes de le masser 3 minutes, mais enfin, l'autre pleure parce qu'il veut aussi son bain et qu'après, il veut son biberon. T'es toute seule, tu fais bon, bah toi, le massage, ce sera pour une autre fois. On remettra ça peut-être à ce week-end si on a le temps. Et en fait, j'allais à l'encontre de ce que j'avais envie de donner, je pouvais pas faire ce que je voulais faire. Et du coup, fallait lâcher prise, mais c'était hyper dur. Je me disais, le pauvre, lui, je l'ai porté beaucoup parce qu'il pleure beaucoup, mais le pauvre petit Achille qui attend de moi, mais je peux pas lui donner, donc bah, tant pis, pas Achille, bon, Ulysse, je te reprends. Et on se dit, c'est pas juste, en fait, de pas pouvoir avoir l'impression de faire équitablement les choses pour les deux. Donc on est tout ça, on se le dit, je pense, avec les jumeaux, il y a quand même cette culpabilité de se dire toujours, est-ce que je donne autant à l'un qu'à l'autre? Et voilà, là je pense que j'y arrive un peu mieux du fait que celui qui était le plus difficile se soit calmé. Mais ça, je pense que ce sera toujours difficile. Oui. Parce qu'il y en a quand même souvent un qui est plus en demande. Ou voilà. Et bon, bah, on essaye de combiner, quoi.
Et donc, avec les aides dont tu parlais juste avant, et donc du temps un petit peu plus pour toi, tu vas pouvoir souffler un petit peu et tu comptes te rediriger vers le chemin de l'emploi.
Donc, tu disais, tu étais avocate avant en propriété intellectuelle. Et donc, moi, je me demandais, après 2 ans, donc sans bosser, dans les biberons, dans les couches, comment tu te sens face au marché? Est-ce que le fait aussi de devenir maman entre-temps, ça a peut-être changé quelque chose dans tes désirs professionnels?
Ouais, c'est assez oui, c'est, bah, c'est, ça, la question résume à peu près mes pensées. Bah, dans le sens où, oui, là, je pense qu'il est temps de commencer à envisager la suite, parce que dans l'envie, enfin, à l'origine, j'avais pas envie forcément d'être mère au foyer avec mes enfants, même si ça devient justement moins difficile et que je me dis que c'est pas impossible que ça traîne encore quelques mois, en tout cas. Oui, je suis plutôt active, donc j'ai besoin au quotidien, même intellectuellement, même physiquement, il faut que je sois un peu stimulée, il faut qu'il se passe des choses, il faut que ça bouge. Donc ouais, je commence à entrevoir. Avocat, j'ai pas nécessairement envie de recommencer. J'ai fait presque 8 ans, c'était très bien, c'est une très belle expérience, mais voilà, je pense que en fait, ce désir de grossesse, la maladie, tout ça, ça fait revoir aussi ses priorités, ses envies, et en tout cas, je me dirige pas vers ça, éventuellement plutôt vers un emploi de juriste, mais je continue quand même à m'ouvrir et à regarder un peu potentiellement ce qui pourrait me plaire, voilà, peut-être me dédier plus aux autres, justement. Voilà, c'est être plus utile, faire quelque chose de plus utile. Donc c'est pas encore très défini pour moi, je suis justement, et je pense, comme tu le disais, c'est pour ça que je disais la question reflète la réponse, mais le fait de devenir maman, on revoit effectivement ses priorités, ses envies. Je me dis que tous les matins, si je dois partir travailler et que c'est pour faire un truc que j'aime qu'à moitié, mais que je dois en plus laisser mes enfants toute la journée à des gens pour pas m'en occuper, pour les voir, quand j'étais avocate en tout cas, je rentrerais limite, ils sont couchés par quelqu'un d'autre que moi et je les ai pas vus, en fait j'ai pas envie de ça. Donc voilà, même si je trouve que c'est pas toujours facile d'être maman et tout, je me dis voilà, j'ai quand même envie de l'être à minima, et donc d'être présente autant que je pourrais l'être. Et voilà, et donc du coup ça fait réfléchir aussi à la façon de travailler derrière, je pense.
Avant de te laisser repartir dans ta vie trépidante de maman, quelques dernières petites questions. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Il faut être toujours au top, il faut être speed. Non, blague à part, non, mais oui, je pense qu'il faut... On a envie d'allier à la fois tout ce que peut nous offrir Paris et la vie de maman. Et je trouve que c'est hyper bien fait à Paris. Alors là, moi, j'ai des enfants en bas âge. Mais je trouve que c'est génial parce que je vois chez d'autres, il y a énormément de choses qui sont dédiées aux enfants. On peut très vite, ne serait-ce qu'en termes de culture, il y a quand même beaucoup d'espace culturel dans lesquels on peut quand même maintenant emmener les enfants et leur faire faire pas mal de choses. Mais le seul regret peut-être d'une maman parisienne, c'est le manque peut-être d'espace vert ou en tout cas de partage d'espace vert, de devoir trop partager les espaces verts avec... avec tout le monde, parce que moi je trouve que ça c'est un peu dur en fait quand on se balade. Et une maman parisienne, elle doit toujours être au top, elle se doit d'être toujours en forme, en tout cas c'est l'image je pense qu'on attend aussi d'une maman, c'est working girl, maman, et savoir tout faire tout le temps, voilà, il n'y a pas de limite, tout est possible.
Ton endroit kids friendly préféré ?
Bah là c'est difficile parce qu'avec les enfants qui sont encore petits, on fait pas des trucs de dingue. Donc ouais, c'est une question un peu...
Vous avez pas fait de resto ?
Ouais, non, on n'a pas fait de resto. On n'a jamais été refoulé vraiment. Il y a des endroits avec la poussette double où les gens sont pas hyper open en disant « Ah, il va falloir prendre trois tables. » Mais non, ouais, j'ai pas de lieu. Bah non, mais ce que je trouve super, là, c'est quand ils seront un petit peu plus grands, mais c'est tout ce qui est jardin d'acclimatation et tout. Mais c'est pas... C'est ouvert à tout le monde, évidemment. Donc, en termes de lieux, resto et tout, pour l'instant, je ne serais pas trop capable de donner. Ouais, ce sera un peu plus tard, je pense.
Alors, quels sont tes projets en famille et ceux que tu vas faire rien que pour toi ?
Rien que pour moi, un week-end de copine sans enfants, très prochainement. Et avec les enfants, c'est les vacances de cet été. Ouais, essayer de s'organiser des vacances tous les quatre, mixer les amis d'abord et puis se trouver au moins une semaine tous les quatre. Voilà, peut-être pas partir très loin, mais prendre du bon temps et voilà, et en espérant que tout le monde dormira à peu près paisiblement.
Je te le souhaite. Merci Clémence. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Clémence, je vous invite à retrouver la photo sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.